L'épicurisme. Voilà, donc cette aspiration, l'épicurisme, va apporter des réponses, d'où un succès considérable qui va durer plusieurs siècles et qui va durer jusque après Athènes, la période romaine, République et Empire romain. Et il y a une grande figure qu'on abordera peut-être plus tôt la prochaine fois qui va jouer un rôle considérable dans la perpétuation, la continuité de l'épicurisme. C'est ce poète, on le présente généralement comme un poète, mais poète philosophe, qui est Lucrèce. À travers ce livre essentiel, De la nature des choses, qu'on traduit par De natura rerum couramment, mais en fait, la vraie formule latine, c'est De rerum natura, c'est-à-dire que le génitif, enfin, le complément de nom, se met avant le nom, contrairement au français. Mais c'est vrai que couramment, on pervertit en suivant l'ordre français, en disant couramment De natura rerum, mais c'est une erreur. C'est De rerum natura, qui veut dire de, au sujet de, à de, c'est ça, de, c'est au sujet de. Rerum, c'est res, la chose. Rerum, c'est le génitif pluriel, donc des choses. Ce qui a donné des mots comme res publica, la chose publique, république, hein, d'accord? Et natura, ben, c'est la nature, voilà. Donc, de la nature des choses. Nature étant à entendre, hein, dans toute la philosophie depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en réalité, nature n'est pas à entendre au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la nature, les petites fleurs, les petits oiseaux, hein, on se promène dans la nature. C'est à entendre dans un sens, c'est un concept, la nature, dans le sens de l'essence du monde, l'essence. Comme on parle de la nature humaine, quand on dit nature humaine, on entend par là l'essence. C'est-à-dire l'être au fond de l'homme, quoi. Voilà. Donc, de la nature des choses, il s'agit de cela, qui est en fait écrit sous la forme d'un long poème avec des chants. Les différentes parties, ce sont des chants. Un long poème qui est magnifique. Que celle qui participe à l'atelier d'écriture de Marie Cosner a l'occasion d'aborder, mais sous un angle purement littéraire, quoi. Et Lucrèce est vraiment le continuateur de l'épicurisme, pour une raison simple, c'est que cette période donc, du 1er siècle avant notre ère commune et des siècles qui suivent, pendant la période romaine, donc, sont aussi des siècles d'instabilité, de dépression collective. La révolution sociale, comme les historiens l'ont pu appeler à Rome, c'est-à-dire une révolte contre les empereurs abusant d'un pouvoir dictatorial. Et puis, il y a par exemple, alors c'est un peu plus tard que Lucrèce, mais c'est dans le même élan de déstabilisation profonde, il y a le fameux épisode de la révolte des esclaves, les Spartacus. Vous connaissez l'histoire de Spartacus, voilà. Donc c'est une période extrêmement troublée où les cadres mentaux, politiques, sociaux sont complètement chahutés, bouleversés. Et cette période-là aussi connaît un effet de dépression collective et une même aspiration à trouver dans la philosophie et la philosophie morale un guide de conduite, une orientation définissant le sens de l'existence. Hein. On retrouve la même chose que dans la période hellénistique, d'où là aussi le succès continu de l'épicurisme. Parce que c'est une réponse toute faite dont Lucrèce sera le porteur. En effet, contrairement par exemple au stoïcisme, qui est une pensée qui va constamment évoluer, avancer à travers les différentes périodes du stoïcisme, je n'y reviens pas, et des grandes figures de philosophes stoïciens, l'épicurisme est basé sur une doctrine philosophique qui est verrouillée, c'est-à-dire, non pas parce que c'était l'intention d'Épicure, mais qui est fixée d'une certaine manière, une fois pour toutes, qui apparaît comme une philosophie, une vision du monde parfaite. Une vision de la physique du monde, une vision de la morale du monde parfaite. Donc, il n'y a qu'à puiser là-dedans, comme un dogme. Et ce qui fait que, par exemple, Lucrèce ne va pas être un philosophe inventeur, ça va être un poète extrêmement inventeur, créateur, créatif, mais qui n'aura que comme but de traduire, la, pour les, ses contemporains romains, de traduire la philosophie d'Épicure, mais pas de la faire évoluer, pas de la réinventer, et de la traduire magistralement à travers une langue poétique extraordinaire. Voilà. Où les gens de l'époque vont trouver, pour une part d'entre eux, les réponses voulues. Les réponses voulues, donc, à leur angoisse, d'une certaine manière. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas ces réponses. On n'a plus de figure. Regardez comment la figure du philosophe, de l'intellectuel, est extrêmement dévaluée. Aujourd'hui, les journalistes vont interroger un acteur de cinéma pour lui demander ce qu'il faut penser de la situation du monde. Et les acteurs de cinéma ou même les chanteurs vont donner des réponses. Il y en a qui sont assez lucides pour dire ben moi, moi j'ai pas, c'est mon opinion, j'ai rien à dire sur le sujet. Mais il y en a beaucoup qui se prêtent au jeu, quoi. Bref, France Inter est un spécialiste de ça, le magazine. À chaque fois qu'ils interviewent une vedette de la culture, ils lui posent des questions sur la situation du monde. Que vont penser vous du problème des migrants, que pensez-vous de Trump, que pensez-vous encore ce matin, j'entendais ça.
Et c'est ça la vraie alors, question.
Oui, oui.
La question derrière, c'est
la question, la question, je l'avais déjà un peu abordée au début, c'est-à-dire qu'en fond, il y a une grande... Si j'en reste à la France, mais on pourrait le dire de toute l'Europe, voire de tout le monde occidental, il y a une grande période de vie intellectuelle intense, qui a été la période des années 60, 70, 80, avec des figures qui faisaient autorité et qui étaient des figures qui, par exemple, pouvaient passer à la télé, à la radio, mais pas dans des émissions de variété, dans des émissions où ils étaient interviewés avec la durée voulue pour déployer une pensée. C'était des figures comme Sartre, mais aussi comme Michel Foucault, comme Roland Barthes, même le Solers, le Philippe Solers de l'époque où il dirigeait la oui, où il dirigeait la revue Tel Quel, voilà. Même Lacan était un personnage qui avait une autorité au-delà du sphère.
Jean Kelevitch aussi.
Voilà. Il y avait toute une série de figures intellectuelles qui étaient respectées et qui faisaient autorité. Voilà. Et surtout, ça se doublait d'une vie intellectuelle quotidienne. C'est-à-dire les gens lisaient. Les livres de Foucault étaient lus considérablement. Ah si, si, si. Non, beaucoup plus c'est qu'aujourd'hui. Non.
L'Attrait le Néant était
un exemple, il suffit de se baser, alors j'ai plus en tête les chiffres, je les avais vus, sur les ventes de livres comme Surveiller, Punir de Foucault, ouais. C'est des ventes qui sont 100 fois plus élevées qu'aujourd'hui.
L'Attrait le Néant aussi, c'est un grand succès.
L'Attrait le Néant, enfin, tous ces grands livres qui ont marqué Mythologie de Bach, tous ces grands livres qui ont marqué une époque, l'époque dont je parle, ont eu des ventes qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Et même globalement, mais moi, ça, je l'ai connu quand, au début, on tournait en librairie. Par exemple, la FNAC, sur un livre de philosophie, les FNAC à Paris, chaque FNAC prenait d'emblée à l'éditeur jusqu'à 100 exemplaires d'une nouveauté de philosophie, même d'un auteur pas connu. Aujourd'hui, les mêmes libraires vont en prendre 2 au maximum. Mais non, il faut prendre la mesure du changement considérable d'époque. Voilà, donc ça joue un rôle important. C'est-à-dire qu'il y a, et du coup, le cercle vicieux, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de vie intellectuelle, il n'y a plus de figure qui émerge avec une pensée qui fait autorité. Quand je dis faire autorité, c'est-à-dire qui est écouté, respecté, critiqué aussi. Parce que la vie intellectuelle se doublait de controverses, de débats extrêmement...
Mais je crois que... ne sont pas capables de modéliser le monde.
Je crois que ce que tu dis est vrai sur l'idéologie, c'est-à-dire quand on est revenu des grandes idéologies, qui étaient un système verrouillé complètement. Mais des gens comme Foucault, Lacan, Barthes, ou même ça, ne modélisait pas le monde au sens où où c'était plus un questionnement critique, un exercice critique qu'autre chose sur le monde. Alors qu'aujourd'hui, les médiatiques comme Onfray ou autres donnent une espèce d'illusion d'un prêt-à-penser. Ça se rapporte plus à une modélisation, un prêt-à-penser, quoi. Et les gens sont...
C'est intéressant de ce que tu dis, parce que oui. Moi aussi, je l'ai un peu connu, cette époque-là, même des gens comme Maurice Clavel avaient une aura...
Une énorme...
Une aura au-delà du phénomène parisien, parce que c'est quand même des phénomènes parisiens, mais ils étaient lus, écoutés, alors ils passaient dans des émissions ciselées. C'était très ciblé les émissions. Ils ne passaient pas chez Ruquier ou ailleurs.
Ça n'existait pas chez Ruquier.
Donc il y avait ça aussi.
C'est les années 80 qui ont basculé ça.
Sartre n'est pas passé à la télé quand même. Hein. Sartre avait une autre. Mais c'était vraiment des figures, de pensée.
Oui.
Qu'on a plus à cœur.
Voilà. Et peut-être que. Bon, il faudra interroger ça longtemps, ce qui n'est pas l'objet maintenant. Mais peut-être aussi que notre monde contemporain, donc aujourd'hui même, est devenu épicurien dans le sens ordinaire du terme. C'est-à-dire que du coup, la recherche, alors c'est lié aussi au développement du consumérisme, la recherche de plaisir immédiat, le plus intense possible, de façon illimitée, s'est substituée à l'effort que nécessite l'élaboration d'une pensée propre, personnelle.
Donc hédoniste, pas
du terme. Justement. Oui, c'est ça. Peut-être que ça joue aussi un rôle dans tout ça. C'est-à-dire que...
Oui, en même temps, la recherche du plaisir peut être en tant que tel un exercice très, très, très subtil. Subtil et très ambitieux même.
Oui, mais
le problème, c'est les plaisirs qui sont à disposition immédiate. C'est-à-dire que le temps entre le désir et quelque chose qui arrive, qui va venir. C'est le problème du sucre dans notre société, qui est un plaisir immédiat et de basse qualité au bout du compte.
Mais là, tu t'approches de la définition du plaisir et de la quête du plaisir dans l'épicurisme, précisément. C'est un parcours, c'est une démarche, c'est une ascèse, c'est une discipline. C'est une discipline. Voilà, alors, juste pour terminer deux, trois repères historiques, il y a une autre période qui est importante, je ne crois pas que je l'avais dit l'autre fois, de souligner où l'épicurisme a eu une forte influence dans la société. À la Renaissance, et dans le prolongement de la Renaissance, le 17e, comme réaction à ce qu'était la pensée dominante issue du Moyen-Âge, qui était la pensée scolastique nourrie par l'aristotélisme, nourrie par la redécouverte d'Aristote. Alors juste un mot, vous savez qu'au XIIIe siècle, donc dans la dernière partie du Moyen-Âge, à partir de l'Andalousie notamment, l'Andalousie maure, l'âge d'or andalou, il y a eu une redécouverte des philosophes grecs et en particulier d'Aristote, considérable, apporté par des gens comme Averroès. Il y a un triptyque de trois philosophes et théologiens qui appartiennent aux trois monothéismes, qui sont parallèles et qui émergent dans la même période. Donc c'est Averroès pour l'islam, et Maïmonide pour le judaïsme, et notamment son fameux, ce qui a été traduit en français, ce qui est à titre une traduction contestable parce qu'elle est ambiguë, le guide des égarés. Mais ça dit bien ce que ça veut dire en même temps, quoi. On retrouve ça à la période hellénistique que j'évoquais avant, ou à la période de l'Empire romain que j'évoquais, la période de Lucrèce. Et la troisième figure pour le christianisme, c'est Thomas d'Aquin. Et notamment sa Summa Theologica, sa Somme Théologique, qui est un énorme pavé, qui construit un système néo-aristotélicien. C'est-à-dire qui reprend la philosophie d'Aristote et contribue à la faire connaître, au même titre que Maïmonide ou Averroès contribuent à répandre Aristote qui avait été oublié. dans ce, la société donc, du Moyen-Âge. Et ceci constitue la base intellectuelle de la scolastique qui va être dispensée dans les grandes... en tout cas pour ce qui est de Thomas d'Aquin, hein, dans les grandes universités européennes qui étaient des universités chrétiennes, en fait, hein, uniquement. Et en particulier la Sorbonne pour ce qui est du territoire français. Mais toutes les grandes universités... je pense à Bologne, les universités les plus anciennes, c'est Bologne en Italie, c'est Salamanque en Espagne, et la Sorbonne à Paris, partout, de grandes universités, qui sont des lieux qui vont diffuser la pensée scolastique néo-aristotélicienne. Alors la caractéristique de cela, c'est qu'en gros, c'est une vision du monde... qui est basé sur Aristote, qui est que du monde que l'homme doit poursuivre, c'est le bien souverain qu'il doit, le souverain bien qu'il doit poursuivre. Et chez Aristote, le souverain bien, c'est trouver d'une certaine manière la perfection du logos. C'est la perfection intellectuelle, si vous voulez, la perfection de la raison, la perfection de la raison qui correspond au fait de retrouver, de faire écho, de raisonner avec la perfection de l'ordre du monde. Parce que le monde obéit à un ordre qui fait qu'il y a une harmonie cosmique. C'est quelque chose de totalité aboutie. Et donc, la philosophie a pour but de découvrir cette visée, cette finalité. Quoi. C'est une eschatologie, comme on dit en d'autres termes savants. Voilà. Donc c'est ce que diffuse la scolastique, d'une certaine manière, pour le dire vite. Et il y a une réaction par rapport à cela, dans la foulée, donc à la Renaissance, progressivement, qui est une période extrêmement, là aussi, bouleversée. La Renaissance, c'est une véritable révolution urbaine dans les villes d'Italie, de Flandre et par ricochet dans toute l'Europe. C'est un bouleversement qui, à travers l'essor urbain, remet en cause l'ordre de la chrétienté et son doublon philosophique qui est la scolastique, néo-aristotéliste. Ce mouvement de remise en cause, de contestation de l'ordre scolastique, de la pensée d'Aristote, au fond, va se faire en redécouvrant l'épicurisme, qui est un matérialisme, j'y reviendrai après, contre le côté spiritualiste, on va dire ça comme ça, de la pensée. L'épicurisme offre une pensée qui permet de rompre, qui est au fond une pensée matérialiste, qui va se baser sur notamment un principe que je vais développer, c'est que la vérité tient dans les sensations, l'expérience. Alors, une figure notamment importante qui jouera un rôle à cette époque-là, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est Thomas Hobbes, l'anglais Hobbes, H-O-B-E-S. Oui, qu'on peut rapprocher comme étant inspiré de... Et ça ouvrira par la suite, alors c'est plus tard que Hobbes, mais il joue un rôle important comme ce grand philosophe qui est, d'une certaine manière, un peu le fondateur philosophique du libéralisme dans tous les sens du terme, au sens anglo-saxon, qui est Mandeville, M-A-N-D-E-V-I-2-L-E, qui est un nom français, mais qui est un philosophe hollandais, qui a écrit sa fameuse « Fable des abeilles ». Et qui a des fondements très profondément épicuriens, épicuristes, si on ne veut pas faire de compte. Voilà, donc on voit qu'à travers l'histoire de l'Europe, l'épicurisme apparaît toujours comme une ressource, une réponse, quand on veut remettre en cause ce que Jacques appellerait justement la modélisation, une pensée totale d'un monde parfait, que l'on peut atteindre par une quête personnelle, en quelque sorte.
C'est quand même ça, c'est important, hein, parce que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas modéliser.
Ah, les experts, oui.
Donc,
les experts,
c'est toujours les experts.
Oui, oui, les experts.
C'est intellectuel, c'était. Alors, on a lié des experts.
Non.
Non.
La grande différence que j'essaye de faire sortir, c'est qu'un expert, effectivement, il propose des réponses explicatives toutes faites qu'il s'agit d'appliquer. Donc, c'est au sens vrai des producteurs de modèles. Les grandes figures intellectuelles du XXe siècle dont je pensais, certains, par paresse d'esprit, ont pu les prendre pour des fournisseurs de modèles, mais profondément, c'était des gens qui exerçaient un esprit critique, c'est-à-dire qui remettaient en cause ce qu'on appelle la doxa, l'opinion convenue, les clichés, les idées toutes faites. Donc, c'était le contraire d'être des producteurs de modèles, si tu veux. C'est en ce sens-là que c'est important d'avoir ce distinguo en tête, quoi. Quand je dis qu'ils fournissaient des réponses, ce n'est pas des réponses en termes de modèles, de prêt-à-penser, c'est des réponses en termes d'indication d'une démarche critique. Une voie, c'était des ouvreurs d'une voie critique, ce qui est tout à fait autre chose comme type de réponse, quoi. Et ça, ce distinguo, il est toujours à avoir en tête, quoi. C'est un distinguo essentiel à faire. Et c'est vrai qu'on trop souvent, et encore une fois, par paresse d'esprit, on va passer de l'un à l'autre. On va rabattre les propositions de pensée d'ouverture de gens comme Foucault, admettons. On va le rabattre sur le plan de modèles prêts à penser. Et Foucault, c'est tout le contraire, quoi. C'est tout le contraire. Ça reste constamment ouvert. Toujours remettre en question des certitudes et des... Et c'est ça qui est important.
Je vais peut-être intervenir en porte-à-faux. Moi, il me semble qu'il y a une grande transformation, ce que j'appelle les transformations invisibles, entre ce qui se passait dans les années 70
et aujourd'hui.
C'est que on est intégré, c'est invisible parce qu'on croit que c'est la même chose, et en fait, on est pris dans un autre paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte... C'est pas l'action, c'est pas la recherche, c'est pas la question. Si on prend la pensée de Foucault, ou même j'ai lu des énormités sur Marx, on veut en faire une espèce de bloc homogène,
oui.
Capitalisable et transmissible de manière économique. Même j'ai acheté un numéro de la revue Philosophie sur, je crois que c'est sur Foucault, mais c'est caricatural, quoi. C'est du digest. En fait, avant, il y avait une action. Il y avait une recherche, et les grands philosophes, c'est des poseurs de questions. Aujourd'hui, ce qui domine, ce n'est pas l'action, c'est le label, c'est le sigle. C'est-à-dire, on fait venir un type, et même à l'université, ça joue. À l'université, on ne demande pas, on demande pas de faire de la recherche, on demande aux gens de publier dans des revues. Et quand on veut les nommer experts, ça se calcule par l'ordinateur au nombre d'articles qu'ils ont publiés, même si les articles sont vides.
Oui, c'est le critère de Shanghai, notamment.
Et tout le monde est pris dans
Le critère d'évaluation mondiale, c'est le problème de l'évaluation. En fait, l'idéologie de l'évaluation aujourd'hui suppose qu'il y a un modèle, parce qu'il ne peut pas y avoir d'évaluation si ce n'est pas rapporté à une échelle, donc à un modèle.
Absolument.
Et donc, on est en plein là-dedans.
Ce qui compte, c'est le sigle. C'est d'avoir le label écrivain, c'est d'avoir le label spécialiste, c'est d'avoir le label philosophe. Et les gens que je connais, les pauvres, eh ben, ils se démènent pour survivre dans ce système. Mais derrière le label, il n'y a plus grand-chose, sauf l'activité pour acquérir le label. Donc, il y a une gadget.
Et Shanghai, pour terminer là-dessus, c'est quand même une aberration auquel tout le monde se plie. C'est un modèle qui s'applique à la planète entière, de classement à partir d'un système de critères de toutes les universités du monde. C'est-à-dire toutes les universités au monde, quel que soit le contexte social, culturel des pays, c'est-à-dire une université chinoise, une université brésilienne, une université française, est notée, évaluée, selon ce modèle de Shanghai qui a établi toute une échelle de critères, fait que par exemple les universités françaises apparaissent assez mal classées.
Oui.
Et je pense que c'est tout à leur honneur.
Oui, c'est ça.
C'est tout à leur honneur parce que ça veut dire qu'il reste en France quelque chose de l'or, justement de l'esprit critique, qui fait qu'il y a encore cette activité qui est de plus en plus amoindrie dans l'université française, hélas, mais qui subsiste encore, qui fait que du coup, elle... à la dictature du modèle de Shanghai, qui est l'opposé de cela. Voilà. Et c'est ce qui explique à mes yeux que les universités françaises sont très mal classées selon Shanghai.
C'est pas grave.
Mais ce qui est terrible, c'est que les journalistes en France, tous les ans, ils rappellent que le classement de Shanghai fait que les universités françaises sont nulles, sans interroger ça, sans interroger ce modèle précisément. Effectivement, citerait un dernier penseur qui refuse le terme de philosophe contemporain, c'est Jean-Claude Milner qui se revendique de l'épicurisme et du matérialisme d'Épicure très fortement pour penser aujourd'hui. Donc l'autre fois, je crois que j'avais évoqué plus précisément ce qu'était la vie d'Épicure. Je l'avais fait l'autre fois, non ? Donc, je passe sur la vie d'Épicure. Refermé, alors, non ? Non, directement au contenu de cette philosophie d'Épicure. Je crois qu'il y a un premier principe essentiel, c'est que l'épicurisme, c'est avant tout réalisme lié à une expérience pratique du corps ou de la chair. Et on voit l'opposition, d'ailleurs, entre la philosophie chrétienne et la philosophie épicurienne. C'est que, il y a un très bon livre d'un historien américain qui avait écrit sur le christianisme ou l'invention de la chair. Mais en fait, il est clair que la philosophie chrétienne va se réemparer de la question de la chair comme la face négative par opposition à l'esprit. La chair comme l'instance justement du plaisir hédoniste en quelque sorte, de toute la du dérèglement, le siège de Satan, la possession, c'est cela.
C'est pas pareil de dire la chair et de dire le corps.
Alors ça dépend dans quelle acception des termes on se situe. Dans l'épicurisme, on peut dire que les deux termes sont équivalents, au sens où la chair, c'est le corps, la chair, c'est le siège des sensations. C'est-à-dire que les sensations viennent à travers la chair, dans l'épicurisme. Alors, c'est quoi les sensations et l'expérience des sensations sur lequel se fonde l'épicurisme? Ben, c'est l'expérience des sensations, c'est-à-dire l'expérience de la chair basique, la plus basique et la plus simple qu'il soit. C'est-à-dire c'est la faim, c'est la soif, c'est le fait d'avoir froid ou chaud, et c'est le fait d'éprouver une sensation agréable de plaisir, ou au contraire une sensation désagréable de douleur. Voilà ce qu'est l'expérience de la chair, ou du corps, on dirait aujourd'hui, telle que l'épicurisme l'a décrit. Et pour Épicure, la vérité ne réside que dans cette expérience-là. Ce qui est vrai, c'est la sensation. La sensation éprouvée par le corps. Tout le reste est soumis à des grandes illusions. Donc tout ce qui relève de l'âme renvoie très vite à l'illusion de l'imaginaire, Et c'est ce qui va fourvoyer complètement les hommes. Il faut s'en tenir à cette expérience sensible du corps, qui est faite d'une succession de sensations. La vérité n'existe que là, le vrai n'existe que sur ce registre. C'est l'opposé de toutes les spiritualités, effectivement. Mais par exemple, le christianisme qui évoque la chair d'une façon négative, c'est intéressant parce que le christianisme et l'épicurisme s'opposent véritablement sur ce plan-là. Pensez simplement au fait que le mot charité, qui est un fondement important de la morale chrétienne, la conception du rapport à autrui. Le mot charité, c'est le même mot que chair. Oui, c'est le même mot, étymologiquement. Et pourquoi ? Parce que la charité s'adressait au corps. Et les œuvres de charité consistent à quoi ? À épargner l'individu qui ne peut pas s'en sortir de la douleur liée au froid, à la faim, à la soif, à la douleur physique. C'est intéressant, cette espèce de symétrie entre les deux. C'est-à-dire qu'en fond, la charité en revient à une forme d'épicurisme de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la vérité morale, c'est de permettre à autrui d'éviter tout ce qui est déplaisir, désagrément dans l'expérience sensible. Alors, ce qui est important, donc, c'est que la chair, dans ce cas-là, vous l'avez compris, n'est pas à entendre au sens physiologique ou anatomique du corps. C'est pour cela que la chair peut être rendue comme synonyme du corps, quoi. D'accord ? C'est important. C'est-à-dire qu'en grand, c'est là que se joue le sujet individuel. C'est-à-dire que s'il y a une individualisation dans ces sociétés holistes ou holistiques, elle se joue dans l'expérience du corps, l'expérience des sensations. C'est là qu'on peut dire qu'il y a une naissance du sujet. Le sujet, ou j'irais même plus loin, le moi, dans ces sociétés-là, n'existe que comme conscience, mais c'est déjà énorme, que comme conscience individualisante des sensations du corps. C'est-à-dire des plaisirs et des déplaisirs, des plaisirs et des douleurs.
L'impression de solitude.
Oui, non, c'est pas une sensation, je dirais que c'est un sentiment.
Oui.
C'est un sentiment, c'est-à-dire que la solitude, ce n'est pas une expérience immédiatement sensible. Le sensible, ce n'est uniquement que ce qui passe par le corps. D'accord ? Le sentiment, c'est ce qui passe par ce qu'on appellerait l'âme. C'est-à-dire qu'on est au niveau de la fantasia, comme disent les Grecs, c'est-à-dire de la représentation. C'est ce qui explique que la solitude n'est pas la même chose que l'isolement. L'isolement, c'est directement une expérience sensible. On est isolé. C'est le corps qui est séparé de tout et à distance de tous les. Il n'y a pas d'autre corps autour de soi, l'isolement. D'accord ? On est dans un désert seul. Voilà. C'est une expérience sensible d'une certaine manière. Parce qu'elle peut être appréhendée par les sens. Les sens, la vision, le toucher, il n'y a rien autour de soi. Or, on voit bien que isolement et solitude, ce n'est pas du tout la même chose. On peut avoir le sentiment de solitude au milieu d'une foule, avoir un sentiment de plénitude alors qu'on est complètement isolé.
Dans le désert.
Dans le désert. Donc vous voyez que isolement et solitude, il faut vraiment séparer. La solitude, ce n'est pas une expérience sensible. La solitude est un sentiment, et ça touche aux notions de représentation, donc c'est une fabrication de l'âme. Alors, pour Épicure, pour l'épicurisme, l'âme, c'est un composé plus complexe. L'âme n'est pas différent du corps. Et par exemple, pour l'épicurisme, il n'y a pas d'immortalité de l'homme. Si vous voulez, vous souvenez
de l'âme.
Vous savez la distinction essentielle platonicienne entre le corps et l'âme.
Oui,
et l'âme qui est prisonnière du corps et qui va se libérer du corps, qui est la prison à la mort. Dans l'épicurisme, c'est en sens-là que l'épicurisme est un anti-platonisme. Dans l'épicurisme, rien de tel. C'est-à-dire que l'âme, c'est un composé plus complexe d'atomes. Qui est le prolongement du corps. Ah ben oui, parce que
sans
sens là, que c'est une philosophie profondément matérialiste.
On pèse moins lourd quand on est composé.
Non, pour Épicure.
Pour Épicure. Oui. Alors, composé d'atomes et qui donc va se désagréger à la mort.
Oui.
Ça.
Oui, oui.
Oui, c'est le côté fatal de la mort.
Oui, oui. Alors, précision par rapport à cela. Le corps, la chair, entendu comme corps, pièce des sensations, et l'âme ne sont pas séparés. Ça forme un tout qui ne s'oppose pas, qui n'est pas constitué de deux instances différentes, qui se différencient. Ça, c'est important. Alors, c'est ce qui explique quelque chose d'important. Il y a une déduction immédiate qui est que le plaisir ou la souffrance n'existe du coup que si on en a conscience. Par exemple, quand on dort véritablement, la conscience est suspendue, on n'éprouve ni plaisir ni a priori souffrance.
Il y a des rêves qui...
C'est comment tu te réveilles ?
Non, je crois pas. Je crois que c'est la souffrance qui fait te réveiller ton rêve parce que à un moment donné, tu ne le supportes pas pour X raison. Et ça nous est tous arrivé de nous réveiller en criant sur des poursuites
oui, mais,
ou des choses comme ça.
Oui, mais
et
Eric,
c'est bien la souffrance qui nous réveille. Donc elle était là, mais on n'en avait pas conscience.
Eric, c'est quand ça... Le réveil, c'est le réveil de la conscience.
Mais la douleur était là. Mais
le sommeil, c'est une suspension de la conscience. Non, mais la douleur pouvait être là, mais elle n'existait pas. Tu n'en avais pas conscience.
C'est
non conscient.
Oui, oui, c'est le souvenir qu'on a du rêve après qui fait souffrir.
Oui, c'est la constatation.
Tous les rêves dont tu ne te souviens pas, c'est complètement neutre, ça n'existe pas.
La souffrance, elle existe au moment du rêve parce que je veux dire, il y a tout le corps justement qui va parler. On voit quelqu'un faire un cauchemar.
Oui, tout à fait, on le voit.
Il vit la peur, il vit la souffrance à ce moment-là.
Non, mais c'est après coup, c'est au moment du réveil, de l'éveil.
Si tu as beaucoup souffert dans ton rêve cette nuit et que tu t'en souviens pas, ta souffrance est inexistante.
Mais quoi qu'il en soit, la nuit, le sommeil n'est pas peuplé que de rêves. C'est des phases, ce qu'on appelle le sommeil. Mais quoi qu'il en soit, je prenais l'exemple du sommeil, j'aurais pu prendre d'autres exemples, simplement pour dire que 90% des phases de sommeil. Ce n'est pas le sommeil paradoxal. Il n'y a pas d'état de conscience, de sensation du corps. Du tout.
Mais le cerveau n'est pas éteint.
Ça, c'est autre chose. Le cerveau n'est pas éteint.
Oui, c'est vrai.
Mais la conscience et le cerveau, ce n'est pas la même chose.
Dans son sommeil, c'est certain.
Mais même si les idées ou les imaginations sont une émanation secondaire du corps, elles ont leur propre fonctionnement, elles ont leur propre réalité, même évanescente, même secondaire. Parce que, dans le fond, ce qu'on sait un petit peu, c'est que le rêve est là pour préserver le sommeil et atténuer des tensions qu'il y aurait dans le corps. Donc, on peut être matérialiste et accepter ça quand même.
Ah ben oui, oui, oui. Oui, mais c'est pas contradictoire. C'est ce que disait Virginie, à ce que dit Épicure.
L'imaginaire est une production réelle. L'imaginaire est une
production réelle. L'importance de cette... la déduction de ce que dit Épicure, qui est essentielle, c'est que on a pu faire... Quand Épicure dit la seule instance de vérité, c'est les sensations. On a pu objecter qu'il peut y avoir une illusion des sensations.
Tout à fait.
Ce que dit Épicure, c'est que non. Parce qu'il y a une conscience immédiate. Compte tenu que l'âme et le corps forment un tout, c'est un. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dissensus entre l'âme et le corps. Et quand on a une conscience immédiate des sensations, pour Épicure, la sensation ne peut pas être l'objet d'illusion, c'est-à-dire d'erreur, compte tenu qu'il n'y a pas d'espace où s'inscrirait la fantasia, c'est-à-dire une production de l'imagination. Donc la sensation, de ce point de vue-là, est nécessairement vraie. Si on a faim, on a faim. Alors, On peut remettre en cause cela par la suite. On l'a fait, et notamment notre période consumériste est très propice à mettre en cause Épicure sur ce plan-là, parce que on peut imaginer que l'imaginaire introduit un travail du désir qui fait que on prend pour des besoins ce qui est de l'ordre d'une production illusoire, imaginaire. Par exemple, on peut avoir faim alors qu'on n'a pas faim. On peut croire qu'on a soif parce qu'on aime bien le vin et qu'on veut boire du vin alors qu'on a
faim. C'est
et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, effectivement, Épicure est contestable sur ce plan-là, mais avant de le contester, il faut comprendre la cohérence de sa pensée. C'est-à-dire qu'il conçoit une physis, une nature, une physique, où il n'y a pas d'interstice entre l'âme et le corps. C'est la même chose, je force le trait. C'est la même chose qui fait qu'il n'y a pas d'espace où s'inscrirait entre la sensation et la conscience qu'on a de la sensation de l'imaginaire. Donc pour lui, il n'y a pas d'illusion, de fantasia qui viendrait faire qu'on a une conscience fausse, erronée des sensations. Ce qui est en bonne partie vrai aussi, quand même. Ce qui est en bonne partie vrai. Alors, pas totalement, parce que les médecins le savent très bien quand ils essaient de mesurer la douleur d'un patient. Avec les échelles, ils ont introduit de la subjectivité. Donc, la subjective vérité que les médecins introduisent, c'est effectivement ce qui est de l'ordre de la représentation. Et pas simplement de la sensation immédiate. Donc, il y a une médiation qui s'introduit entre la conscience et la sensation corporelle pure. Mais pour Épicure, telle n'est pas ainsi la réalité humaine. D'accord ? Il n'a pas défini de voilà, conscience, ce n'est pas un terme. La conscience, c'est simplement le fait de s'en rendre compte. C'est l'expérience. C'est l'expérience vécue.
Conscience de. Et dans le sens conscience de.
Conscience de, oui. Oui, conscience de. Après, la conscience, au sens d'un concept, on peut l'entendre comme l'activité de l'âme, précisément.
Pour lui, c'est l'âme.
Dans la philosophie antique. Juste. Une première réponse qui n'en est pas une. Je parlais de renouveau de l'épicurisme à la Renaissance, 17e, etc., et jusqu'au 18e. Hein. Si je cite des gens comme Hobbes, il y a une morale politique dans Hobbes. D'accord. Si je cite même Diderot, par exemple, qu'on peut rapporter à une forme d'épicurisme, par son matérialisme. Diderot, il y a une forme de morale dans la pensée de Diderot. Je peux prolonger encore jusqu'à Nietzsche. C'est Nietzsche, c'est toi qui me fais penser à Nietzsche. C'est qui est dans cette filiation. Nietzsche, on peut dire que c'est une philosophie morale. Il s'est intéressé plus qu'en tant que philologue, en tant que philosophe, il s'est intéressé à la morale, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, simplement, déjà, c'est une réponse qui n'en est pas. On voit comment la morale est présente comme préoccupation de tous la filiation matérialiste épicurienne. Nietzsche était épicurien. C'est pour ça qu'il est anti-socratique, qu'il est anti-platonicien,
pour le corps.
Voilà. Qu'il est anti-chrétien, etc. Avant de répondre sur le fond à la question, il faut éclairer davantage ce que j'évoquais rapidement, la conception de l'âme comme un composé d'atomes plus subtils. Il faut que j'évoque un peu plus la théorie épicurienne qui est basé d'abord avant que ça soit une morale, sur une physique. C'est une étude de la nature, entendue au sens grec du terme, la nature comme ce qui est l'essence des êtres, l'essence du monde. D'accord ? Pas simplement les petites fleurs et les petits oiseaux. On peut qualifier la physique d'Épicure comme ce qu'on appellera par la suite un atomisme. Un atomisme. Atomisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, que tout repose sur l'atome. C'est-à-dire que le monde des étangs, le cosmos, le monde, et y compris le sujet humain dans le monde, est fait d'atomes. C'est-à-dire qu'on peut tout ramener à un élément de base, le plus petit élément,
qui n'est plus ça,
c'est l'atome.
Mais d'où ça vient, d'où ça vient ce
pourquoi tu dis ce n'est plus ça?
L'atome, c'est pas la petite partie indivisible.
Oui,
bon,
oui.
Oui,
oui.
On arrive à ça.
Oui, 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 tout à fait.
D'où vient la conception, quand même, de l'atome?
Alors, ça, c'est, là, ce n'est pas directement une invention de Picure, c'est Démocrite qui était bien antérieur, qu'on peut assimiler aux présocratiques, si on veut bien, et qui a cette idée, cette intuition, qui n'est pas établie, mais parce qu'on n'avait pas les moyens de l'établir par l'observation du microscopique, qu'au fond, tout est composé de la combinaison, de l'association d'éléments simple, de la composition d'éléments simples auxquels on peut revenir, l'élément de base qu'on appelle un atome. Et c'est une intuition assez géniale parce qu'au fond, c'est pendant longtemps, ça a constitué jusqu'à aujourd'hui notre physique. Alors aujourd'hui, effectivement, ce que tu dis est à la fois vrai et faux. C'est que les physiciens, grâce aux moyens d'observation, ont montré comment l'atome lui-même est composé d'éléments et qu'on a mis en évidence la physique des particules, etc.
On en fait des bombes, mais on le désintègre bien.
Oui.
Oui, mais c'est les parties d'atome.
Mais on peut dire quand même que c'est une partie d'atome, d'un élément de base qui est l'atome, malgré tout.
Voilà. L'atome est
par contre, où on peut interroger cela grâce à l'astrophysique ou à la physique de l'infiniment petit, j'ai dit infiniment, c'est qu'on peut dire que le monde est composé de deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et que ça, c'est une donnée nouvelle. C'est-à-dire qu'en gros, on peut toujours diviser en deux, il en restera toujours debout. Qu'on peut rediviser en deux.
C'est l'histoire de la flèche qui est...
Alors, c'est la flèche... La parabole de la flèche ou l'image de la flèche, c'est pareil.
Ça avait déjà... Antique, ça.
Ah, c'est de façon antique.
Intuitive.
Mais bon, pour en rester à Épicure,
comme
sa physique s'inspire de Démocrite, donc elle est atomiste, c'est-à-dire qu'en gros, tout est composé d'atomes. Le monde, l'autre élément important, l'univers, le monde, le cosmos, si vous voulez, c'est un vide. Il y a du vide. Ce qui est juste. Ah ben oui, toutes les expériences... Il y a du vide, et dans ce vide, il y a une chute perpétuelle d'atomes. Les atomes chutent en permanence. Il y a une pluie d'atomes dans le vide en permanence. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui fait que des étangs se constituent ? C'est-à-dire des choses, si vous voulez, pour prendre le langage de Lucrèce, des choses, des étangs, qui vont constituer... le cosmos. C'est que, alors c'est une notion que je trouve magnifique et qui est dite à travers un beau mot, ces atomes dans leur chute connaissent des déviations. C'est-à-dire leur trajectoire n'est pas droite, elle dévie. Ce qu'on appelle déviation, c'est clinamen, c'est un beau nom. Clinamen, c'est I-N-A-M-E-N. Le clinamen, c'est une notion essentielle. Le clinamen, C-L-I-N-A-M-E-N. C'est la déviation de chaque atome dans sa trajectoire de la chute. Ce qui l'amène à une conséquence déterminante qui constitue le monde, c'est que du coup, les atomes s'agrègent les uns aux autres. Ils se composent. Certains, évidemment. Parce que c'est comme une histoire d'aimant. Il y a de l'attirance, mais aussi de la répulsion. Donc des corps complexes, composés d'un ensemble d'atomes, se constituent.
C'est extraordinaire cette intuition, parce que scientifiquement, c'est ce qui se passe.
Ben, c'est assez juste. Le corps est composé quand même d'atomes. Alors il n'y a plus petit que les atomes, mais néanmoins. Voilà. Ce qui est important à ajouter, c'est que qu'est-ce qui détermine c'est ce clinamen qui va déterminer lui-même cette composition de corps, qui sont les étangs ou les choses. C'est le hasard. C'est purement le hasard. Donc il n'y a pas de nécessité. Et c'est en ce sens-là que la physique épicurienne laisse la place à la liberté. À la liberté du sujet humain. Vous comprenez que si tout obéit à une nécessité, en termes contemporains, ça veut dire que tout obéirait à des déterminismes. Tout serait déterminé, y compris le destin. Y compris le destin. Le destin résulterait de nécessité.
Absolument.
Donc, il n'y aurait pas de liberté possible.
C'est parce que dit Einstein.
Il n'y aura pas de liberté possible. Le fait qu'il y ait du hasard, ou ce que Sartre, en termes contemporains, a pu appeler la contingence, on est jeté dans le monde, c'est très épicurien. Il y a une source d'inspiration épicurienne dans cet aspect philosophique de Sartre. On est jeté dans le monde. C'est la contingence. C'est ce qui permet qu'il y ait de la liberté. Et Épicure, déjà à son époque, qui est de rappeler, mais je l'avais dit l'autre fois, que hélas, comme ça arrive souvent dans l'Antiquité, on n'a en gros aucun texte d'Épicure. Donc Épicure, il y a quelques textes, il y en a des fragments, je vais lire une lettre à Ménécée notamment. Donc il y a quelques textes qui nous soient parvenus d'Épicure, mais la plupart de la pensée d'Épicure. Mais c'est le cas souvent dans l'Antiquité, et en particulier, pensez aux présocratiques, on la connaît à travers d'autres qui s'en sont faits, les commentateurs ou les copieurs fidèles. Donc ça, c'est toujours la difficulté philologique par rapport à ces pensées. Mais bon, ça n'empêche pas d'avancer. C'est comme Socrate, on ne le connaît pas en tant que tel. Et pourtant, Socrate nous apporte au plus haut point. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse, mais c'est un rappel important. Épicure, donc, on ne le connaît qu'à partir de très brefs fragments et surtout à travers d'autres. Donc, vous voyez comment se construisent les choses. Donc, on comprend à partir de là que sa physique laisse la place à une éthique. Parce qu'il n'y a pas de morale. Là, je rends volontairement les deux termes synonymes. Hein. Il n'y a pas de morale s'il n'y a pas de liberté. La morale qui renvoie au mode de vie, au mode de conduite, à l'action, suppose qu'il y ait des choix individuels. Si tout obéit, c'est à un destin, à une détermination complète, la morale n'existerait pas. Vous comprenez ?
Ce serait utile, mais...
Hein ?
Ce serait inutile.
Mais il n'aurait pas de place. Ouais, voilà, il n'aurait pas de place. Toute notre vie, nos comportements, nos conduites obéiraient à des nécessités, à des déterminismes. Donc, vous comprenez en quoi cette physique d'Épicure et sa théorie du clinamen et du hasard, c'est ce qui fonde la possibilité d'une morale. C'est-à-dire d'une quête, un espace où le sujet humain va être dans une quête de ce qui est bien, sous-entendu, ou de ce qui ne l'est pas, de ce qui est mal. Donc c'est deux choix.
Pourquoi choisir ce qui est bien ?
Ah ben, ce n'est pas une obligation.
Fallait que choisissez.
Précisément, ce n'est pas une obligation. Donc, comme ce n'est pas une obligation, c'est en ce sens-là qu'il y a la morale, qu'il y a la réflexion.
La morale, elle est un
quel but elle...
Eh bien,
pour préserver quoi ?
La finalité du bien que l'on va, comme sujet individuel, poursuivre.
Oui, mais la question est...
Ce qu'on dit, c'est que l'épicurisme revient à l'ascétisme, parce qu'il faut
éliminer
les imaginations pour ne pas avoir de souffrance. C'est le type. Et l'autre chose, il n'y a pas de Dieu dans ce que nous avons
dit. Oui, bien sûr.
Alors si, une précision importante, Épicure, et d'ailleurs il n'a jamais été condamné en tant que tel pour cela, ne nie pas l'existence des dieux. Les dieux existent. Ça fait partie des étangs. Par contre, ce qui est important, il y a des dieux.
Ils sont matériels alors.
Non, ben c'est comme les sujets humains. Il y a des dieux. Mais la différence par rapport au platonisme ou à tout ce qui prédomine dans la Grèce ou même chez Rome, c'est que les dieux n'ont pas d'influence, n'exercent pas de détermination, ne sont pas la source d'un déterminisme sur la vie humaine. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme lié à l'organisation du cosmos, pas plus qu'il n'y aurait de déterminisme lié à des super êtres qui seraient les dieux et qui influenceraient
sur les
dieux.
Ils
existent.
À quoi tu sers, c'est pareil.
Ils existent.
Tu peux exister sans
ça. Au même titre qu'il y a les animaux, qu'il y a les... Non, ils existent.
Ils expliquent le monde aussi. Voilà. Ils expliquent le monde, les dieux, beaucoup aussi. Ils expliquent le monde.
Donc on les fabrique.
Oui.
Donc c'est pas les fabriquer, il fait avec ceux qui existent à son époque. Hein.
Oui, voilà.
Oui, par ailleurs, et d'autre part.
Oui, parce qu'il n'est pas trop...
Donc c'est un agnostique.
Il ne veut pas trop bouleverser le...
Eh oui, sinon c'est emmerdant.
Oui, sinon il y aurait des
justement. Une vision du monde statique, c'est ça. C'est une vision du monde où la Terre est le centre...
Enfin, pourquoi tu dis que la Terre est le centre ? Elle n'est pas le centre. Il n'y a pas de centre, du coup. Il n'y a pas de centre.
Quelle est la conception du cosmos, d'Épicure ?
Le cosmos, c'est un vide. C'est un vide où, de façon perpétuelle, il y a une chute dans ce vide d'atomes.
Ils viennent d'où ?
La chute qui vient d'où ?
Ces atomes viennent d'où ?
Ils ne se posent pas cette question-là. Ils existent. C'est une espèce de permanence. Il répond quand même à la question d'où vient notre univers tel qu'on en a l'expérience. Il vient précisément du clinamen, c'est-à-dire de ces agrégations d'atomes qui sont dues à quoi ? Au hasard. Mais il y a des physiciens ou des astrophysiciens qui maintiennent cette théorie, qui disent au départ c'est le hasard.
Mais c'est le hasard.
Oui. Mais le temps Épicure, c'est en ce sens-là que c'est pas statique, Michel. Le temps existe pour Épicure au sens où le temps, et ça, les Grecs, déjà Aristote l'avait montré très bien, le temps n'existe que parce qu'il y a mouvement.
Ouais.
Un monde figé sans mouvement, le temps n'existerait plus. Ce qui fait qu'il y a du temps, c'est qu'il y a du mouvement.
Sur soi.
Non,
du mouvement. Et or, dans la physique épicurienne, il y a du mouvement. C'est la chute des atomes et leur déviation et qui fait qu'il y a de la composition de corps. Et donc, il y a du temps à partir de là. Le temps, c'est le mouvement. Les deux termes, on peut les faire, les rendre synonymes.
Est-ce que pour Épicure, donc, il y a agrégation qui est suivie, c'est une question, qui est suivie à un moment donné de désagrégation,
oui,
et qui est suivie de recombinaison.
C'est pour ça que vous connaissez la fameuse formule. Qui est une formule épicurienne qui vient de Lucrèce, rien ne se perd,
tout se transforme.
Rien ne se crée, tout se transforme.
Donc les choses sont des phénomènes qui sont
temporaires.
Des combinaisons temporaires de ces éléments de base.
Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'immortalité.
Oui, il n'y a pas de mortalité.
Sauf de ces, on dirait aujourd'hui, de ces particules élémentaires.
On n'est pas loin de philosophie orientale.
Oui, par un bout, oui. La seule chose, c'est que... Oui, d'une certaine manière, oui.
Non, je dis ça parce parce que aussi tu nous as contextualisé l'épicurisme avec le stoïcisme, hein. Mais ces deux philosophies dont tu nous as contextualisé dans une période d'empire, et une période
de mondialisation, de mondialité.
De mondialisation, oui. De mondialisation,
oui. Je
m'interroge, je pense, sur la
proximité. Mais tout à fait, et probablement, on ne le sait pas d'une façon extrêmement précise, mais les historiens s'accordent sur le fait. Cet effet de mondialité et de migration de population fait que, incontestablement, les philosophes, mais je croyais que je l'avais évoqué, oui. Les philosophes grecs, à partir de la période hellénistique, connaissent plus ou moins, mais connaissent et sont contaminés ou influencés par les philosophies orientales. Incontestablement. Mais déjà, on savait que Platon, d'une façon volontaire, avait connu et s'était intéressé, et du coup, ça a joué un rôle dans sa pensée, les théogonies égyptiennes, les mystiques égyptiennes antiques. Mais on le sait précisément parce que Platon avait une âme de ce qu'on appellerait aujourd'hui un ethnologue. Il est allé voir, il a voyagé, Platon, et il est allé voir en Égypte, il est allé en Égypte. Après, dans la période hellénistique, on sait qu'il y a eu des frottements, des contaminations avec les philosophies orientales, ça on le sait. Donc, qu'il y ait des résonances entre la philosophie épicurienne et sa physique, Et la physique de certaines sagesses orientales, oui, c'est pas du tout étonnant. Ce n'est pas étonnant. Non seulement ce n'est pas étonnant, mais c'est plus que probable. Donc cette liberté va, à partir de là, ouvrir à une réflexion morale ou éthique. Comment orienter sa vie, comment orienter sa conduite, c'est-à-dire quelle est la finalité de l'existence du sujet humain. Alors, ce qui caractérise massivement la morale épicurienne, c'est que la finalité, c'est la quête du plaisir adéquate, appropriée, qui est la définition de la vie heureuse. Donc, la vie heureuse épicurienne est complètement détachée de tout idéalisme ou spiritualisme. C'est encore une fois pas la quête du bien souverain. Ce n'est pas la contemplation de l'être un, de l'un bien, comme disent tous les platoniciens et néoplatoniciens. C'est la vie heureuse est liée à l'expérience du plaisir et surtout l'expérience de plaisir qui se caractérise par la non-expérience du déplaisir. C'est-à-dire la non-expérience de la douleur, si vous voulez. On pourrait dire que c'est une conception naturaliste. Ou ça revient au même, matérialiste, de la vie heureuse. Cette vie heureuse, il y a un terme grec qui l'a défini, que j'ai déjà évoqué pour l'épicurisme, c'est l'ataraxie. Ataraxie, comme ça se prononce, le A privatif. Donc vous notez que c'est une définition négative d'une certaine
manière. Mais là, ça rejoint l'origine.
C'est une définition négative. Le A est négatif en grec. Mm-hmm. C'est la préposition négative. L'absence de ou le ne pas. Taraxi, c'est l'absence de trouble.
Donc c'est avant le plaisir.
Le trouble de la conscience.
Pourquoi est-ce que dire c'est avant le plaisir? C'est dès qu'on est sorti du déplaisir, on est dans l'ataraxie et on n'est pas forcément dans le plaisir. On peut être à un stade où on a juste mal nulle part. On ne souffre pas de la faim, ni du froid, ni quoi que ce soit. Et on est juste... là commence l'ataraxie. Mais le plaisir, est-ce que c'est l'ataraxie?
Pour Épicure, très clairement.
Oui,
pour Épicure.
Une grande jouissance.
C'est-à-dire que tu atteins dans l'ataraxie, tu atteins une certaine sérénité qui est liée au plaisir d'exister. C'est le plaisir même qu'après tout, une notion...
C'est le déplaisir d'exister. Quand tu prends une tarte, c'est le déplaisir d'exister. Et quand tu n'as pas de douleur, c'est comment le plaisir d'exister.
Oui.
Parce qu'il me semble que...
C'est la pyramide de Maslow.
Il dit, si tu as trop de plaisir, c'est-à-dire un gros jouisseur, ton imagination...
C'est super vrai.
Va te porter et tu vas en vouloir toujours plus. Toujours
voilà,
plus,
alors.
Oui,
donc, il vaut mieux modérer tout ça pour ne pas être perturbé.
Mais tu vas trop vite là, tu vas trop vite.
Modérer, c'est gérer, c'est pas enlever.
Oui, oui, c'est ce que je vais développer. Tu vas trop vite.
Ah,
c'est l'histoire de.
Alors, la question donc, c'est d'où vient le trouble? D'où vient le fait qu'on n'atteigne pas l'ataraxie? D'où vient le trouble qui produit de la douleur, de la souffrance, etc.
Des charges.
C'est ce qu'on peut appeler dans le sillage d'Épicure les passions. Le désir aussi, oui. Pourquoi? Parce que les passions, c'est de l'or non plus de la sensation. On rejoint la discussion de tout à l'heure par rapport à la solitude. C'est de l'ordre du sentiment, c'est-à-dire de la conscience, donc de la représentation, donc de la fantasia, donc de l'imaginaire. C'est une production dite par définition déréglée de l'âme, du sujet, qui va inévitablement aboutir au déplaisir, à la souffrance, à la douleur, et donc à l'inverse de la ataraxie. C'est à partir de là que le sujet humain est miné par les tracas, parce qu'il est dans le désir... de ce qui n'est pas...
Oui, c'est ça,
et là, on rejoint le stoïcisme.
Absolument, absolument. C'est pour cela qu'on découvre que par un bout, il y a plein d'oppositions, on est d'accord. Le stoïcisme se nourrit de la figure de Socrate, ne rejette pas le platonisme, alors que le stoïcisme n'est pas un matérialisme. Alors que, clairement, l'épicurisme... s'éloigne de Platon, s'éloigne est un matérialisme. C'est-à-dire que la vérité ne se tient que dans l'expérience sensible. L'expérience du corps, l'expérience de la sensation.
En fait, c'est du côté de Pascal, l'épicuriste, quand il dit le problème de l'homme, c'est de ne pas savoir être seul dans une pièce, attendre. Enfin, j'ai plus le... C'est plus comme ça qu'il dit. Mais c'est justement...
Non, il dit...
Il n'y a rien. Il n'y a pas de passion, il n'y a rien.
On est heureux si
on peut
ça.
Oui,
tout à fait.
C'est le précepte bouddhique qui dit le bonheur est l'absence de désir.
Oui.
Oui, le bouddhisme, c'est mettre fin au désir.
Oui, oui, tout à fait.
Mais l'absence de désir, c'est la mort.
Mais oui.
L'absence de désir, c'est la mort.
Alors, dans une certaine conception.
Oui, ou l'ataraxie, c'est arrivé à la mort.
Michel.
À la mort de...
Est-ce que tu accepteras à ma mort de m'envoyer du bon côté si je te dis que...
Je serais bien avec lui. C'est maintenant que ça se
fait. Si on se situe d'un point de vue épicurien, le désir, c'est de l'ordre de la fantasia, des représentations, mais que la vie, c'est la vie de la chair entendue comme corps, la vie existe par les sensations, l'expérience des sensations. Qu'il n'y a pas de nécessité à introduire pour définir le vivant, il n'y a pas nécessité, d'un point de vue épicurien, d'introduire le désir. C'est pas une nécessité. On peut dire que la vie existe à travers l'expérience des sensations. Et le plaisir ou des plaisirs que produisent les sensations.
Il y a plein de philosophies qui parlent de l'ataraxie, mais j'ai l'impression que moi, les épicuriens, ils voulaient prouver, les grands épicuriens, pas l'épicurien jouisseur, mais leur pouvoir sur le désir. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à des ascèses extrêmes pour dominer au maximum le désir.
Oui, mais ce n'est pas le terme de désir qu'ils utilisent, c'est vraiment le terme du plaisir. C'est en gros, je vais préciser les choses un peu après, mais en clair, et même le texte d'Épicure directement qu'on a, par exemple, de la lettre à Ménécée, que je lirai un peu après, parle de plaisir, ne parle pas de désir.
Donc le terme même n'est même pas envisagé.
Le terme même, il va parler de passion, de représentation, de fantasia. Et alors ça renvoie à une théorie que je n'ai pas encore abordée chez Épicure. C'est lié à l'anamnèse, c'est-à-dire au souvenir qu'on a de sensations et qui s'agrègent, qui se coagulent et qui vont constituer précisément les représentations, les fantasmes. Ce qu'on peut appeler au bout du compte les désirs, c'est-à-dire l'aspiration à retrouver une fausse sensation dont on a une mémoire mais déformée. De ce point de vue-là, on peut noter que c'est pas complètement éloigné de la psychanalyse.
Comme de l'addiction.
C'est pareil. Voilà. Au bout du compte, c'est le mécanisme de l'addiction, c'est ce même mécanisme, absolument.
Le joueur peut retrouver la sensation qu'il a eue la première fois quand il a joué.
Donc vous voyez que désir, addiction...
C'est les schémas qu'on reproduit.
Mémoire et représentation que produit la mémoire, tout ça, c'est les mêmes mécanismes que Épicure analyse précisément et qui sont pour lui la source des troubles et la source des illusions et de l'erreur de ce sujet-là. Donc, ce qu'il faut combattre à travers cette ascèse, cette discipline, c'est l'illusion qu'introduit l'anamnèse, appelons ça comme cela, de faux souvenirs des sensations, des expériences successives de sensations qu'on a.
Et qui prive d'autre chose, par conséquent, parce que le joueur qui est addictif se prive pendant ce temps-là d'autres
expériences
et qu'il ne parvient pas à faire.
Oui, tout à fait. Donc, c'est en ce sens-là que, pour Épicure, c'est pas la sensation en tant que telle et l'expérience immédiate des sensations qui est source d'erreur. Ce qui est source d'erreur, c'est cet agrégat lié à la mémoire, au souvenir, qui constitue des illusions, des faux souvenirs, quoi.
Qui rêve d'un sujet.
C'est en ce sens-là qu'il y a une notion importante qui est de suspendre le jugement qui va résulter de ce travail de mémoire. Il faut le suspendre parce que ça revient à suspendre l'illusion. Il faut s'en défaire.
Oui.
Au fond, c'est ce qui va renvoyer ce concept très contemporain, mais qu'on peut retrouver équivalent dans la philosophie grecque, de la prénotion. C'est-à-dire que ça construit des prénotions, c'est-à-dire en fait des préjugés. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est ce qui produit l'addiction, effectivement. C'est que cette mémoire illusoire va amener, avant même la sensation, l'idée de la sensation qu'on veut retrouver.
Mais ça marche pourtant.
Ça marche, mais au bout du compte, dans une illusion.
Ouais, mais tu te dis, je vais prendre un livre parce que comme ça, j'ai passé un bon moment. J'ai déjà eu des expériences en disant, je passe un bon moment parce que je prends un livre. Ben, il y a des chances que ça marche, encore une fois. Donc, on peut pas. Ou d'autres choses. Je vais aller à tel endroit parce que c'est.
Oui,
bon,
mais. Oui, mais attends, là,
non, ça marche pas.
Ton exemple n'est pas bon, Eric, si je peux me permettre, parce que le livre n'est plus de l'ordre du plaisir naturel, du plaisir lié à l'expérience de la sensation.
Je mangerai une fraise encore une fois, parce que c'était bon la première fois, et il y a de fortes chances que si je n'ai pas mangé des fraises depuis la saison dernière, je la trouve encore bonne.
La critique qu'on pourrait faire par l'écriture, c'est de séparer, de dire, bon... la chair a raison, la chair, la sensation a raison, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que le souvenir du plaisir ou l'addiction, c'est pas seulement une illusion, mais que c'est inscrit dans le corps. C'est pour ça que la différence entre le corps et la chair, c'est important, c'est-à-dire que le corps lui-même, indépendamment de l'esprit, respire avec toutes ces illusions. Parce que l'addiction, c'est une mémoire du corps, c'est pas une mémoire du sujet, c'est une mémoire
Attends, dans le corps. Épicure ne nie pas cela. Il ne nie pas. Forcément, il admet que les fantasias, les illusions liées à ces agrégats de souvenirs qui déforment, on le dit vite, qui du coup transforment en prénotion, c'est en représentation, fantasia, qui sont faites liées à la production de l'imaginaire, au fond. Ça, il sait que ça existe. Et pour lui, ça s'inscrit bien dans le corps, vu qu'il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. Donc ça s'inscrit bien dans le corps. Ce qu'il dit simplement, c'est que la morale, l'ascèse, doit combattre cela parce que c'est ça qui aboutit au déplaisir, au trouble, qui fait obstacle à l'ataraxie. Donc il est d'accord avec ça. Il dit simplement, il faut s'attacher à combattre ça.
Il faut savoir où on met les pieds. En fait. Il faut savoir où on va. C'est de savoir où on va. Qu'est-ce qui dicte notre
et donc
les cigarettes, si tu en fumes 20, qu'il n'y en a qu'une de bonne, c'est non, mais c'est t'arrêtes de fumer à un moment donné parce qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a que l'habitude. Et donc, et fumer en pleine conscience et une cigarette qui va donner du plaisir, c'est assez rare du
compte. Alors, la réponse à d'Épicure là-dessus, je complexifie encore un tout petit peu la chose, où intervient l'imaginaire ? Où ça devient fantasia et pas simplement souvenir, entre guillemets, pur de l'expérience sensible première. C'est que la mémoire fait remonter ces souvenirs d'expérience sensible, mais il va y avoir des agrégations d'expériences sensibles. C'est-à-dire que où intervient l'imaginaire et donc l'illusion et donc l'erreur fatale, c'est que il va y avoir un travail consistant d'association entre des expériences sensibles différentes. Ce qui fait que le plaisir qu'on imagine de la première expérience sensible d'une cigarette est un plaisir qui n'est pas le souvenir de cette première expérience. Ça produit une image nouvelle.
Absolument.
Qui est le fait que cette première expérience sensible de la cigarette, on l'agrège à d'autres expériences sensibles. Et c'est bien ça le travail de Sevrage, c'est d'essayer de faire les déconnexions. Parce qu'on associe le plaisir de la cigarette à ce qui n'est pas simplement la sensation première de la cigarette. Oui. La meilleure preuve en est que généralement, la première cigarette qu'on a fumée,
elle est dégueulasse.
Donc, ce qui prouve bien que ce n'est pas le souvenir de l'expérience première pure, c'est l'expérience, le souvenir de l'expérience première qui est fantasmée, c'est-à-dire qui est associée à d'autres expériences premières et qui forme une nouvelle image qui n'a rien à voir avec l'expérience première.
Le problème, c'est quand on bute à vouloir reproduire cette expérience et rechercher en refaisant et en reproduisant. C'est là qu'on a un problème.
Mais c'est là qu'on est dans l'erreur et dans l'illusion.
Alors, c'est un peu comme la psychanalyse.
C'est complètement...
Ben, la psychanalyse, je dirais l'inverse. La psychanalyse, c'est un peu comme l'épicurisme.
Oui, c'est venu un peu... c'était là les premiers. Hein.
À la grande différence qu'il y a l'histoire de l'inconscient. Nicolas,
oui, mais quand même, oui, bien sûr.
C'est ce travail
y a la conscience,
de souvenir, de la mémoire.
Il y a la conscience parce que si tu fumes en pleine conscience, tu fumes déjà autrement que si tu fumes par habitude. Et la conscience fait qu'on peut retrouver un plaisir. La conscience de faire. Parce que souvent, quand on refait la cigarette, les gens qui fument ont oublié la cigarette qui restait dans le foyer, qui est en train de fumer. Et si on fait attention à ce que l'on fait, on se rapproche du plaisir. La conscience fait qu'on peut se rapprocher d'un plaisir.
Alors ça, je vais te dire, quand tu as arrêté de fumer, tu as plein de plaisir.
Non, bien sûr. Ah oui, parce que justement, le corps se souvient de son addiction. Il demande que ça.
Moi, j'aimerais bien fumer une
enfant. Ah non, non, tu n'as pas le choix. L'abstinence est plus facile que la modération, Augustin. Faut pas essayer.
Donc, on comprend qu'à partir de là, la morale épicurienne... C'est une ascèse, une discipline qui va consister au fond à détricoter tout cela.
Mais est-ce qu'il y avait des écoles où la personne était seule?
L'école épicurienne, c'est pas un érémitis, c'est pas du tout une ascèse de la solitude. Hein. Et en particulier, pour Épicure, l'amitié est importante. Et l'école épicurienne, c'est une école collective, si voilà, je veux dire. C'est un travail collectif. Oui. On n'est pas du tout dans la quête solitaire de l'ermite. Du tout.
Pas de méditation. On t'a interrompu, tu as dit que c'était morale épicurienne, s'attache à détricoter.
Détricoter. Ce qui produit l'illusion fatale. C'est-à-dire ces associations fantasmatiques de sensations qui ne sont pas premières au bout du compte, qui produisent des nouvelles images illusoires.
Donc on ne débouche pas une méditation personnelle, c'est simplement une école ou une échange.
Ah si, non mais chacun, si, mais c'est pas antinomique, hein. C'est pas antinomique, c'est cette ascèse, cette discipline individuelle. Chacun doit se l'appliquer pour lui-même dans sa propre vie. Mais aider, appuyer, conforter par le groupe d'amis, par le groupe de l'école, du jardin d'Épicure, comme était nommée l'école épicurienne. Le jardin d'Épicure, l'école épicurienne. C'est beau.
Diogène n'était pas épicurien.
Ah, du tout.
Il est cynique.
Et cynique, oui.
S'il voulait vivre comme des chiens.
Oui. D'où le nom cynique. Mmh. Oui, oui, c'est pas des épicuriens. Non, non, du tout. Du tout.
C'est du costaud. Ah, c'est bagarre. Mmh.
Donc, le tricotage s'opère comment? Par tout un travail de distinction entre ce qui apparaît comme différents types de plaisirs. C'est ce qu'on abordera la prochaine fois, parce que là, je ne peux pas prolonger trop longtemps pour des raisons pratiques.
Pas de voir mais... autrui, l'autre, dans la morale épicurienne, pas de nécessité de faire attention à l'autre.
Non, simplement... Alors, deux points par rapport à cela. Le premier point qui est extrêmement important, contrairement aux stoïciens, Épicure est très clair, il ne faut pas faire de politique.
Pas de politique.
Pourquoi? Parce que la politique, c'est de l'or inévitablement. Donc, c'est le rapport aussi à l'autre. La vie en société. Il ne faut pas s'en occuper parce que c'est de l'or inévitablement de la passion. Et que c'est de l'or de ce qui va amener des troubles. Entre nous, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, bien sûr.
C'est vrai.
On a des choix entre nous.
Mais pour autant, c'est pas qu'il n'y ait pas de souci de l'autre, parce que pour l'épicurien, le fait d'atteindre ou s'approcher de l'ataraxie, donc une forme de sérénité, fait que on ne va pas emmerder l'autre, si je peux dire les choses trivialement. Ça produira une forme d'harmonie collective. Donc en ce sens-là, le souci de l'autre est réel, est présent.
Parce qu'on a le vrai souci de soi, on a forcément le souci.
Par exemple, la jalousie, l'envie il n'y aura pas de place. Pour le sage épicurien qui atteint une forme d'ataraxie, il n'y a ni jalousie, ni envie, etc. Or, la jalousie et l'envie, c'est quand même une des causes premières de la nuisance faite à l'autre. Voilà. Donc, pour finir, je vais lire, je ne fais que lire, cet extrait d'une lettre à Ménécée qu'on a retrouvé donc, indirectement, mais c'est quand même un texte directement d'Épicure, à travers Diogène Laërce. Oui. Voilà, je ne sais pas. Il faut comprendre que parmi les plaisirs, les uns sont naturels et les autres vains. Et que parmi les désirs, alors les termes sont synonymes dans ce cas-là en grec, hein, que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres seulement naturels. Enfin, parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires au bonheur, les autres à la tranquillité du corps. Et les autres à la vie elle-même. Donc, vous voyez, c'est tout un travail très clairement expliqué de différenciation des désirs, c'est-à-dire des plaisirs qu'on convoite, en fait. Une théorie véridique des désirs, c'est rapporter les désirs et l'aversion à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme. Puisque c'est là la fin d'une vie bienheureuse. La fin, c'est la finalité d'une vie bienheureuse. Et que toutes nos actions ont pour but d'éviter à la fois la souffrance et le trouble. Souffrance et trouble, c'est la même chose. Quand une fois nous y sommes parvenus, tous les orages de l'âme se dispersent. L'être vivant, n'ayant plus alors à marcher vers quelque chose qu'il n'a pas, n'est à rechercher autre chose qui puisse parfaire le bonheur de l'âme et du corps. Car nous recherchons le plaisir seulement quand son absence nous cause une souffrance. Quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus que faire du plaisir. Mais parce que c'est une évidence naturelle. Ce qui est une évidence naturelle, on ne le recherche pas. C'est-à-dire au bout du compte, le pur plaisir d'exister, c'est une sensation qui ne se pose pas la question de la recherche du plaisir. C'est une sensation immédiate. Et l'ataraxie, c'est ça. Quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus que faire du plaisir. Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin d'une vie bienheureuse. D'accord ? Le plaisir est en effet considéré par nous comme le premier des biens naturels. C'est lui qui nous fait accepter ou fuir les choses. C'est à lui que nous aboutissons en prenant la sensibilité comme critère du bien. Or, puisque le plaisir est le premier des biens naturels, il s'ensuit que nous n'acceptons pas le premier plaisir venu, mais qu'en certains cas, nous méprisons de nombreux plaisirs. Quand ils ont pour conséquence une peine plus grande. D'un autre côté, il y a de nombreuses souffrances que nous estimons préférables au plaisir, quand elles entraînent pour nous un plus grand plaisir. C'est pour ça, mais j'y reviendrai après, qu'une des... Un des préceptes centrales du matérialisme, c'est faisons effort. Faisons effort. Le goût de l'effort. Or, ça pourrait paraître contradictoire, parce que l'effort, a priori, c'est comme une souffrance. Sauf que c'est l'effort qui aboutit...
Un plus grand plaisir.
Un plus grand plaisir.
Et oui, parce que ça se travaille, tout ça. Forcément.
Tout plaisir, dans la mesure où il s'accorde avec notre nature, dans la mesure où il s'accorde avec notre nature, est donc un bien. Mais tout plaisir n'est pas cependant nécessairement souhaitable. C'est là qu'il faut différencier. De même, toute douleur est un mal. Mais pourtant, toute douleur n'est pas nécessairement à fuir. Il reste que c'est par une sage considération de l'avantage et du désagrément qu'il procure que chaque plaisir doit être apprécié. En effet, en certains cas, nous traitons le bien comme un mal et en d'autres, le mal comme un bien. C'est une dialectique, assez intéressante.
Oui, c'est fort, quand même.
Hein?
C'est fort,
oui, bien sûr.
C'est intéressant. Là.
Et c'est très éloigné de la notion courante, de la, du cliché courant de ce que serait être épicurien.
Être épicurien.
Si, si, je peux envoyer la. Il faut que je retrouve. Je vais retrouver ce texte et je vous l'enverrai en fichier.
Il faut
l'apprendre. Voilà, donc on ira un peu plus loin la prochaine fois là-dessus. Et pour conclure, on prolongera avec Lucrèce. Ça sera un plaisir littéraire.
Merci Dominique.